Bonjour et bienvenue à l'émission Regard sur l'environnement du réseau Ecoforum. Ecoforum est un réseau associatif pour l'environnement, la santé, la solidarité et pour un meilleur cadre de vie. Et aujourd'hui, nous allons parler de santé justement au travers et d'agriculture au travers de l'alimentation. Donc j'ai pour parler de ce sujet deux invités. Le premier de ces invités, c'est Alain Trière qui est médecin nutritionniste et auteur du livre La micronutrition dans votre assiette. Deuxième invité, alors j'ai pas commencé par les dames. Excusez-moi, Monique Diano, présidente des paniers marseillais. Bonjour.
Bonjour.
Et donc vous allez pouvoir aussi donc, nous parler. Donc, vous n'êtes pas salué, pardon, Alain. Vous allez le faire.
Bonjour à toutes et à tous.
Donc, et nous avons une troisième invitée qui arrivera un peu plus tard dans l'émission, parce que nous allons l'appeler. Il s'agit de Jeannie Baude, qui est en fait la coordinatrice de l'événement Les Journées de l'Alimentation, qui se tient d'ailleurs actuellement, qui va se tenir jusqu'à la fin du week-end à Pertuis. Donc aujourd'hui, nous allons parler justement dans le cadre de cet événement de la question d'alimentation. Alors pourquoi parler d'alimentation? En fait, le domaine de l'alimentation fait aujourd'hui est l'objet d'importants débats de société. On parle d'obésité, on parle de problèmes cardiovasculaires, on parle de tous les thèmes de société qui sont associés à la question d'alimentation, qui est une question majeure puisqu'on a l'agriculture qui est aussi liée à ce domaine-là. On parlait d'ailleurs la semaine dernière de la question des OGM et on verra que choisir de planter, c'est aussi choisir d'une certaine façon, c'est aussi choisir de manger d'une certaine façon. Donc on va pouvoir parler de ça aujourd'hui. On a beaucoup entendu parler ces dernières années de scandales alimentaires aussi qui ont fait la une de l'actualité. On mangerait mal, ça rendrait les gens malades, ça pourrait même nous faire mourir parfois. Alors, on va voir qu'il y a plein de questions fondamentales qui sont autour donc des impacts dans nos sociétés modernes, mais aussi dans les sociétés les plus pauvres, des impacts de l'alimentation sur nos modes de vie, sur notre santé, sur notre quotidien. On va essayer tout d'abord de faire un point sur la situation actuelle, parce que il y a un paradoxe autour de cette question. On produit de plus en plus, on a un accès qui est de plus en plus facilité aux ressources alimentaires et pourtant on est de plus en plus malade et on se nourrit de plus en plus mal, semble-t-il, selon de nombreux rapports. Alors, une émergence, une prise de conscience, est-ce qu'il y en a vraiment une aujourd'hui? Il semblerait que oui, une partie de la société a envie de changer son mode de consommation. On parle beaucoup depuis quelques années des fameuses AMAP notamment. On va voir qu'il y a aussi des spécificités dans les AMAP à comprendre, des nuances à comprendre. On va essayer de comprendre justement ce que font les paniers marseillais par rapport aux AMAP à Marseille. Qu'est-ce que c'est un panier marseillais? Qu'est-ce que c'est une AMAP? On va essayer de faire un point aussi dans cette émission sur les conséquences en termes de santé d'une mauvaise alimentation. Est-ce que ça aurait vraiment un impact sur le cancer, un impact sur les maladies cardiovasculaires et quels sont ces aliments qui seraient si toxiques ou est-ce que c'est la carence d'aliments qui est en fait toxique pour notre santé? Alors, quel comportement alimentaire faut-il adopter aujourd'hui? Faut-il changer pour pouvoir ne pas être impacté par ces aliments dangereux ou ces absences d'aliments? Donc, est-ce qu'il y a des choses qui se mettent en place de façon notable en matière de sécurité sanitaire sur nos aliments aujourd'hui ou est-ce qu'on avance à l'aveuglette sans savoir réellement ce que nous avons dans nos assiettes? Alors, de nombreuses questions, deux invités qui vont pouvoir nous apporter une approche complète sur ce sujet. On va peut-être commencer, par Alain Trière, puisque vous êtes médecin nutritionniste, vous allez peut-être profiter de votre savoir pour faire un point peut-être sur l'évolution de cette alimentation au cours des âges.
Oui, oula, l'évolution de l'alimentation.
Rapidement, bien sûr.
Au cours des âges, je commencerai peut-être par autre chose, si j'ose dire. Quand on essaie de faire changer les comportements alimentaires de nos contemporains, tout le monde me dit, mais qu'est-ce que tu racontes? On vit 3 mois de plus chaque année depuis 30 ans, donc l'alimentation, ça va très bien. Ceci étant, nous avons tous dans notre entourage proche, quelqu'un qui est mort à 45 ou 50 ans, brusquement d'un infarctus ou d'un cancer, etc. Et ça, évidemment, c'est pas tout à fait normal. Et dans cette fameuse approche alimentaire, comment dirais-je, il est évident aussi que si on vit de plus en plus, la fin de vie est de plus en plus mauvaise, on a de plus en plus de maladies dégénératives. Là, il y a un problème. Il y a un problème et si on voit ce qu'on mange, eh bien on mange des pesticides dans tous nos aliments, dans tous nos aliments. Je crois que 45%, hein, Monique, c'est bien ça, des légumes de l'agriculture conventionnelle ont des traces de pesticides.
Oui, même un peu plus, je pense.
Même un peu plus, oui, c'est ça. Alors, pour 1 à 2% de l'agriculture biologique, parce que l'agriculture biologique, malheureusement, est victime des vents qui apportent aussi des pesticides qui viennent des petits copains à côté. Donc ces pesticides, on dit, mais c'est pas grand chose, c'est pas des trucs toxiques, mais en fait la multiplication d'une part des sources et la multiplication des jours les uns après les autres font qu'on arrive quand même à des doses toxiques.
Il y a une accumulation. D'ailleurs, il y a une étude que vous citez, enfin qu'on a eue dans la préparation de cette émission, qui porte sur, qui a été faite en France sur des enfants du primaire, donc sur une population d'enfants dans une école où on a fait des prélèvements d'urine sur ces petits, on s'est rendu compte que c'était pas 20% ou 30% qui avaient une présence de pesticides dans leurs urines, mais 100% des enfants
exactement,
qui mangeaient à la cantine, en fait. Et c'est concernant comme chiffre, ça veut dire qu'on a tous des pesticides dans le corps.
Oui, tous. Et alors, l'étude est intéressante parce que en mettant ces enfants à une cantine bio, donc simplement donc un repas sur deux, l'autre repas étant pris chez eux, en mettant ces enfants dans une cantine bio pendant simplement 5 jours, les dosages de pesticides dans les urines baissent d'une façon considérable.
Donc il y a une corrélation directe en fait.
En remettant l'alimentation habituelle, les dosages remontent au taux habituel. Donc vraiment, il y a une corrélation absolue avec l'alimentation.
Parce que les pesticides ne sont absorbés dans le corps que par voie alimentaire.
Principalement, ils peuvent être absorbés par voie respiratoire. Il y a une étude très intéressante du professeur Sultan à Montpellier qui a vu qu'il y avait un taux d'hermaphrodisme, d'anomalie sexuelle tout à fait anormal chez les enfants mâles de sa région. Il a fait une étude, il s'est demandé pourquoi. Il a vu que c'était des enfants d'agriculteurs. Et en fait, quand la future maman qui est enceinte et qui tricote tranquillement la layette de son futur bébé, et que le papa est dans les champs à épandre des pesticides, si le vent va dans la mauvaise direction, la maman respire et c'est simplement en respirant. Et ces pesticides se transforment en hormones femelles. Hein, on dit estrogène-like. Ça s'était vu dans les alligators des Everglades, vous savez, en Floride, où il y avait une usine qui avait brûlé, qui avait déversé des pesticides. Et ces pauvres alligators, eh bien, ils étaient intersexués, au point de, les mâles en tout cas. Voilà. Mais c'est ce qui nous arrive à nous, maintenant, actuellement.
Alors, une alimentation saturée en pesticides, donc ça, c'est la nouveauté.
On ne peut pas dire saturé, puisque, comment dirais-je, les médecins vous disent non, c'est vrai, ce n'est pas des doses toxiques. On ne va pas mourir d'un coup ou faire une crise d'épilepsie parce qu'on a mangé une salade. Toutes ces doses semblent admissibles, mais elles s'accumulent. Elles s'accumulent en particulier dans la graisse et elles sont ensuite relarguées constamment, tout au long de notre vie. Pour vous donner un exemple, on parlait des petits bébés. Vous savez que, comment dirais-je, non seulement la quantité, mais la qualité du sperme masculin, donc, diminue de 50% depuis un siècle.
Et ça, ce serait directement corrélé aux pesticides.
Ben, à quoi c'est corrélé, d'après vous? Voilà, à quoi c'est corrélé?
Il y en a qui mettent ça sur le compte du stress, par exemple. Vous voyez, bon.
C'est une intoxication comme une autre, si je veux dire. Hein. C'est l'intoxication dans sa grande acception.
Alors, donc, ce qui a changé, ce qu'on parlait de l'évolution de l'alimentation au cours des âges, pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup de changements ce dernier siècle ou depuis 150 ans en termes d'alimentation.
Oui.
Donc, on a, comme vous le disiez, une alimentation qui est peut-être pas saturée en pesticides, mais du moins qui a une présence de pesticides suffisante et comme on consomme quand même pas mal de ces produits-là, on a une accumulation dans le corps. Et en plus, vous dites, dans les documents sur lesquels vous travaillez, qu'il y a une potentialisation des toxiques les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'on a différents toxiques dans le corps et ils s'interagissent entre eux et qu'est-ce qui se passe en fait ?
Des petits grains de sable qui ne feraient pas grand-chose s'ils étaient isolés les uns les autres. Il n'y a aucune étude qui a été faite pour savoir si leur accumulation ne fait pas quelque chose. Ça, on ne le sait pas du tout. Et comme, comment dirais-je, on a quand même des arguments, je ne sais pas si vous le savez, mais le taux de cancer, toutes causes confondues, tous les cancers confondus, ont augmenté de plus de 90% en 20 ans. C'est quelque chose qui est hallucinant. Plus de 90% en 20 ans. Les cancers de l'enfant de moins de 5 ans augmentent de 1% depuis 30 ans. Les cancers du grand enfant et de l'adolescent augmentent de 2%. Donc, il y a bien une cause à ça.
Ce chiffre-là qui paraît ahurissant, tellement
c'est
il est
ahurissant,
élevé,
c'est ahurissant.
Il n'est pas aussi là. Bon, il n'est pas aussi gros parce que justement, on a la capacité de détecter les cancers aujourd'hui, de les diagnostiquer.
Voilà, c'est intéressant.
Parce que, bon, il y a un siècle, on mourait du cancer. Est-ce qu'on savait que c'était un cancer?
C'est intéressant parce que c'est la question qu'on pose tout le temps. Non, pas du tout. C'est pas dû à ça. Parce que vous savez, si vous avez un cancer du sein ou un cancer du poumon, qu'on le détecte un peu avant ou un peu après, de toute façon, on le détecte, le cancer. On sait très bien, il y a un siècle, on détectait très très bien un cancer du sein. On savait quand une femme mourait d'un cancer du sein. Mmh. Il n'y a aucun problème. Puis un siècle, c'est même un peu vieux. Et si on prend, moi, je prends dans les 30 dernières années, simplement. Donc, que vous fassiez le diagnostic avant ou après, c'est pareil. Statistiquement, ça ne change pas, ça, les statistiques. Mmh. Par contre, heureusement, on a fait depuis quelques années de grands progrès dans la thérapeutique. Moi, quand j'ai commencé mes études de médecine, tous les enfants qui avaient une leucémie mouraient tous. Maintenant, on en sauve énormément. Mais c'est pas parce qu'on fait de grands progrès dans la thérapeutique qu'il faut laisser les cancers fleurir comme ça. C'est... Et puis, ce n'est pas défendable au point de vue sécurité sociale, au point de vue la société ne peut pas porter une dépense qui devient incontrôlable.
Donc c'est vrai qu'on parle quand même beaucoup des progrès qui sont faits en médecine pour le traitement des cancers. Donc on est dans une médecine de guérison en fait,
oui,
qui se traite.
Mais pas préventive.
Et pas assez préventive selon vous. Alors que bon, vous en tant que médecin nutritionniste, bien sûr, ce serait votre leitmotiv. Il faut peut-être réaxer la médecine vers une médecine plus préventive et qui soit une médecine alimentaire.
Il n'y a guère que la nutrition qui peut effectivement
faire
vraiment quelque chose. Parce que dans toutes les pollutions qu'il peut y avoir, tout le monde est d'accord, le professeur Belpomme, le professeur Narbonne ont fait des études là-dessus, etc. Le professeur Sultan dont je parlais tout à l'heure, tout le monde est d'accord que dans les grandes causes de pollution, la principale, c'est la pollution alimentaire.
D'accord. D'ailleurs, c'est ce que vous dites, quand vous recitez le professeur Belpomme, qui est cancérologue
à Paris. Hôpital Pompidou. Oui,
lui, il dit qu'il y a 75 à 80% des cancers qui seraient d'origine environnementale.
Oui, et là-dedans, 75% d'origine alimentaire. Voilà.
75% d'origine alimentaire.
Alimentaire, oui.
Donc, notre environnement, les pollutions environnementales, en fait, nous impacteraient, finalement, contrairement à ce qu'on pense, peut-être pas tant au niveau atmosphérique, bien que ce soit le cas, mais aussi, principalement, par l'alimentation.
Oui, disons, il semblerait qu'il y ait 25%, disons, atmosphérique et 75% alimentaire. Il semblerait. Maintenant, les études vont se faire de plus en plus fines au fur et à mesure que les années vont passer, quand même.
Alors, vous analysez aussi dans vos écrits l'évolution de l'alimentation au fil du temps. Vous dites que bon, évidemment, notre alimentation elle a beaucoup changé depuis l'époque néolithique, ça va de soi. On aurait été moins malade à cause de l'alimentation à l'époque néolithique, pourtant on pourrait s'attendre à ce qu'elle était moins variée à l'époque quand même.
Oui,
c'est le rapport lipides, protéines, glucides, je sais pas si vraiment on y pensait quand on chassait le phoque.
Exactement, vous allez un peu loin, le néolithique c'est un petit peu loin. Ceci étant, on sait bien ce que mangeaient nos grands-pères Cro-Magnons. Hein. On sait très bien ce qu'ils mangeaient au néolithique actuellement. Hein. Puisque quand vous prenez un pot, vous savez très bien ce qui a été cuit dedans. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Ben, vous savez, ils mangeaient un peu comme nous. Hein. Comment dire ? C'est-à-dire, ils mangeaient des protéines, des glucides, des lipides. Bon, des protéines, c'est-à-dire, c'est la structure. Les glucides, c'est l'énergie. Et les lipides, c'est à la fois la structure et l'énergie. Mais actuellement, nous mangeons en général trop de protéines d'animaux. On a baissé notre consommation de pain d'une façon absolument considérable depuis 1850. Je sais plus combien on mangeait de pain, on n'en mange plus. J'allais dire, heureusement, si j'ose dire, parce qu'il y a une expérience qui est à faire. On conseille aux gens d'aller acheter la baguette toute simple, mais sans sel. Vous la rompez et vous prenez la mie et vous la mangez et vous me direz un peu ce que vous en pensez.
C'est horrible. J'ai déjà testé.
Voilà, c'est horrible. On est d'accord. C'est horrible. Eh bien, je vous. Je, 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 je,
je vous demande de savoir ce que vous, quand vous mangez de la mie de pain comme ça sans sel, ce que vous mangez. Vous ne savez pas. C'est un chamallow sans sucre, sans rien, sans goût, sans etc. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'amidon. C'est, la farine est tellement blutée, il n'y a plus rien dans cette farine. Il n'y a plus rien. C'est-à-dire de l'amidon, c'est-à-dire c'est des longues chaînes de sucre qui vont se transformer en sucre, disons, pour être simple, rapide, c'est pas tout à fait ça, il faudrait dire de sucre à index glycémique élevé, c'est-à-dire des sucres toxiques. Et pour que ça soit mangeable, qu'est-ce qu'on met dedans? On met du sel. Donc vous avez deux choses toxiques, du sucre et du sel. Voilà, il y a 15 ans, le docteur Menton de l'INSERM avait lancé un cri d'alarme et il avait été dit qu'on demanderait aux boulangers de mettre moins de sel. J'ai demandé, moi, au boulanger d'à côté, il m'a dit, il y a 15 ans, on mettait 20 grammes de sel pour 1 kilo de farine, maintenant, on met 22 grammes de sel pour 1 kilo de farine. Alors, on aura peut-être demandé, mais tant que c'est pas imposé, vous comprenez? Parce que sinon, c'est immangeable. Il faut revenir à de la farine complète, et non seulement à de la farine complète, mais à de la farine bio. Parce que si vous prenez de la farine complète qui n'est pas bio, vous avez des pesticides. On retombe sur le problème des pesticides. Donc, ce n'est pas facile. Presque le plus simple, c'est de faire son pain maintenant.
Ouais, vous, le plus simple. Oui, pour être sûr de manger bien. Vous avez, gérer.
Parce
quoi.
Que les pains dits complets que vous avez dans les boulangeries, c'est pas vrai. C'est pas des pains complets. Non, les farines sont déjà blutées, etc. Il faudrait vraiment des pains complets bio, qui eux sont assez onéreux, mais enfin, sinon vous prenez votre farine, vous avez une machine à pain, à la limite, ça se fait tout seul. Voilà, ça serait une grande avancée, parce que la diminution du sel, est corrélée à une diminution des accidents cardiovasculaires. On a parlé du cancer, mais les accidents cardiovasculaires sont complètement corrélés à la tension au sel.
D'ailleurs, je ne sais pas quel est le chiffre, mais c'est plusieurs kilos. Je me demande si ce n'est pas 14 kilos par an par habitant de consommation de sel annuel en France.
On mange 10 à 14 grammes, alors qu'il en faudrait 6 à 7 grammes par jour. Ouais. Ça suffirait très largement. C'est-à-dire qu'on pourrait manger les aliments absolument sans sel. Ils ont assez de sodium. C'est le sodium qui compte. Ils ont assez de sodium eux-mêmes. Les légumes ont assez de sodium, etc.
D'accord. Alors, moi, en fait, la question que je voulais vous poser tout à l'heure par rapport à l'évolution de l'alimentation, c'est bon, on a une population mondiale qui est de plus en plus malade à cause de l'alimentation, alors qu'elle mange de plus en plus variée, en fait. Parce que c'est vrai qu'on est quand même sensibilisé au fait de manger quand même des légumes et des fruits tous les jours, manger de la viande, on mange des protéines différentes, on a quand même pas mal de laitage à notre disposition, tout ça. Et pourtant, semble-t-il, on est de plus en plus malade. Alors, ce que finalement, on n'a pas fait une proposition incomplète, disons, en termes de conseils nutritionnels. Et il s'agissait davantage d'avoir une alimentation équilibrée avec des bons produits plutôt qu'une alimentation variée où on touche à tout et finalement on ingère des substances qu'on devrait éviter, quoi.
Dans le monde occidental, et c'est un peu la même chose dans les pays du tiers-monde qui s'occidentalisent lentement, dans le monde occidental, c'est sûr que très généralement, pas toujours, mais très généralement, on mange trop carné, mais on mange aussi donc trop sucré et trop salé. On mange des sucres qui sont toxiques, qui sont trop, trop agressifs, qui font monter la glycémie d'une façon trop vive. On mange trop de sel et surtout, on mange du mauvais gras. Voilà, on ne mange pas moins de gras que justement sous l'époque néolithique. On mange du mauvais gras. Là, il faudrait parler par exemple des rapports oméga-6, oméga-3. Il faudrait parler des acides gras trans, qui sont des acides complètement toxiques.
On en parle très peu en France, des acides gras trans, alors que c'est présent dans plein de produits
C'est pas partout. Alors, surtout, quand vous achetez des biscottes, des machins, des machins pour vos enfants, ne prenez pas des huiles hydrogénées. Ne prenez pas d'acide gras trans, ne prenez pas d'huile de palme qui c'est pas...
L'huile de palme, c'est considéré comme un acide gras trans
Non, c'est pas un acide gras trans, mais c'est pas un acide gras alimentaire, l'huile de palme, je suis désolé. Alors évidemment, ce sont des huiles qui ne sont pas chères et c'est pour ça qu'elles sont employées. Mais c'est pour ça qu'il faut prendre plutôt des trucs tout à fait traditionnels, en général, les recettes traditionnelles, elles sont...
Ouais, bah, au moins, quand on cuisine chez soi, on a un peu plus de chance de savoir ce qu'il y a dans le plat. Quoi.
C'est ça.
Parce que bon, ça, c'est vrai que c'est pas sujet de l'émission, les acides gras trans, mais c'est un point qui est très important. Oui. On invite vraiment les auditeurs à aller se renseigner sur ça. Il y avait une émission qui est passée, d'ailleurs, je crois que sur un reportage France 2, il y a quelques temps, sur cette question-là, puisqu'on avait le maire de New York qui voulait éradiquer les acides gras trans de sa ville.
Ah, ça semble être formidable.
Voilà, donc il avait eu cette idée-là, parce qu'en fait, il y en avait dans toutes les huiles, dans tous les restos, tout ça. Donc, ils avaient décidé de cuire les frites américaines avec une autre huile, qu'une huile hydrogénée. Et en fait, c'était problématique parce qu'ils se rendaient compte que les gens aimaient le goût de l'huile hydrogénée qui rend les aliments très croustillants, justement.
Oui, oui, c'est sûr.
Donc, il y a un aspect gustatif qui est intéressant avec cette utilisation-là, mais qui est un sabotage pour les artères parce que ça pollue complètement nos artères.
Oui.
Et alors, ça, c'est le problème, justement, peut-être. L'aspect gustatif, est-ce que c'est pas ça la question pour pouvoir faire changer les comportements? Alors, au panier marseillais, vous en parlez, ça, de la bonne alimentation, aussi un côté gustatif important. Alors, quelle est votre structure? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Comment vous positionnez?
Bon, alors, je reviendrai peut-être après sur un petit parallèle entre l'agriculture conventionnelle et l'agriculture biologique, enfin sans intrants de synthèse. Donc les paniers marseillais. D'abord, il faut faire un petit historique. Avant d'être au panier marseillais, nous étions dans la fédération Alliance Provence, qui est une fédération régionale qui regroupe les AMAP de la région PACA. Et puis nous sommes rendus compte, un certain nombre de responsables de groupes, et particulièrement sur Marseille, que l'association était vraiment trop grande pour être réactive directement lorsqu'un problème se posait à tel ou tel endroit, puisqu'elle recouvre toute la région PACA. Donc on a vu aussi les problèmes que rencontraient les agriculteurs pour pouvoir produire dans ce système AMAP, qui est quand même un système remarquable, mais extrêmement difficile pour les agriculteurs. Donc moi, en 2004, on m'avait chargé du développement des AMAP sur Marseille, ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et puis, en 2006, donc, nous avons été un certain nombre de responsables à quitter Alliance Provence, justement, parce qu'on n'était pas tout à fait d'accord sur la façon, sur l'accompagnement, entre autres, des agriculteurs, sur des problèmes de gouvernance, enfin bref. Et donc, on a décidé, après mûre réflexion, de créer une association plus centrée sur les problèmes, les spécificités marseillaises, parce qu'on a quand même des problèmes de grandes villes, et de façon à pouvoir mettre en pratique nos idées. Donc c'est ce que l'on a fait, on recoupe actuellement, il y a à peu près une trentaine d'AMAP sur Marseille, une bonne vingtaine à quitter la Fédération de Provence, et actuellement au panier marseillais nous en avons une quinzaine, et bientôt à terme nous serons une vingtaine. Donc le principe, si vous voulez, est exactement le même, on continue à créer des partenariats solidaires entre un agriculteur en bio ou en reconversion bio et des consommateurs. Ça c'est le socle absolument magnifique. Que ça s'appelle AMAP, que ça s'appelle panier, ça c'est quelque chose d'absolument extraordinaire qui a démarré donc en 2001.
Et qui marche très bien.
Et qui marche très très bien. Mmh. Alors c'est un système qui marche très bien, mais c'est un système extrêmement fragile. Parce que les agriculteurs, pour se mettre à la polyculture et en pratique bio, ce sont deux révolutions à la fois pour eux. Donc ils ont besoin d'un accompagnement extrêmement fort et de formation. Et ils ont besoin également de sentir qu'ils sont soutenus par les adhérents de leur groupe. Mmh. Ça veut dire que quand on adhère dans ce système, en tant qu'adhérent, on s'engage à partager avec l'agriculteur les aléas climatiques. Si par exemple hier j'avais mon panier, et ben le panier, il y a des choses qu'ils n'avaient pas pu ramasser parce qu'ils étaient tellement dans la gadoue qu'ils n'ont pas pu ramasser. Bon, on est d'accord, on accepte. Donc ça, c'est quand même un soutien aux agriculteurs.
Oui, parce que c'est suivre les saisons, mais aussi suivre le climat, en fait.
Suivre le climat,
suivre tous les...
C'est vraiment
une approche solidaire. C'est pas que de la consommation saisonnière.
Non.
C'est une consommation solidaire.
Ça s'appelle un partenariat solidaire. Et c'est toute la valeur de ce système. Donc, qui demande des efforts des deux côtés. Et de l'agriculteur énorme, du côté de l'agriculteur, et également des adhérents de l'association. Parce qu'effectivement, tous ne sont pas militants, tous signent le contrat, mais quand il y a des paniers un petit peu moins pleins, il y a quand même des grincements dedans. Alors là, on est là, les responsables des groupes, pour leur expliquer que oui, ça fait partie du jeu, ça fait partie de la solidarité avec l'agriculteur.
Alors, est-ce que, pardon, juste, ça se joue dans l'autre sens aussi? Quand on a vraiment des récoltes super abondantes, les paniers sont un peu plus gros?
Absolument. Le principe, c'est que l'on partage le moins comme le plus. Ah. Donc, l'été, bon, on a des paniers absolument énormes. On fait ses coulis de tomates, on fait des...
On fait des conserves,
voilà. Et puis, effectivement, l'hiver, on a des paniers qui, parfois, sont un peu moins pleins. Mais ça, ça fait partie du jeu. Mais bon an, mal an, je dirais qu'on a beaucoup plus. On partage plus souvent le plus que le moins.
Ah, d'accord. Donc, oui, puis un équilibre, d'accord.
Voilà. Alors, si je peux revenir sur les problèmes, justement, de nutrition, ce dont on s'est rendu compte également, c'est qu'il y a une nécessité de sensibiliser la population à ces problèmes de nutrition saine. Mmh. Voilà. Donc, ce qu'on a entrepris au sein des paniers marseillais, c'est de faire un panier, une école. Une école proche d'un panier, et de façon à faire de la sensibilisation auprès de cette école. En touchant les enfants dans le primaire, on touche leurs enseignants et on touche les parents. Mmh. Ça nous paraît absolument indispensable parce que si on regarde la population qui vient dans ce système AMAP ou panier, on a des gens, pas forcément des gens à revenus élevés, on a beaucoup de gens à revenus modestes, mais on a des gens qui ont un certain niveau de culture et d'éducation, qui ont été amenés à réfléchir justement sur leur... Voilà, qui sont sensibilisés. Et donc, ces gens-là se sont posés ces questions, justement, dont parlait Alain. Et donc, ce sont les autres personnes qu'il faut amener à réfléchir sur ces questions de nutrition. Parce qu'il faut quand même savoir qu'actuellement, 98% de l'agriculture est en conventionnel, contre 2% seulement en biologique.
Hein? Donc, c'est infinitésimal, quoi.
Exactement. Alors, le...
Et encore que, bon, si je peux me permettre une petite parenthèse, en PACA, on n'est pas trop mal loti par rapport au reste du territoire français.
Exactement.
En agriculture biologique.
En PACA, on doit être la deuxième ou la troisième région. La première, je crois, c'est la Drôme. La seconde doit être le Sud-Ouest. Et la troisième, PACA, ou à peu chose près, deuxième ex aequo, quelque chose comme ça.
Alors qu'il y a 10 ans, je crois qu'en bio, la France était bien placée. Et maintenant, c'est la dernière de l'Europe.
La France était leader.
Oui.
La France était leader.
Elle était très bien placée.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
C'est une volonté politique.
Actuellement, en Autriche, vous avez 13% de l'agriculture qui est en bio. En Allemagne, 12%. En Italie, 12 à 14%. La France est vraiment, je crois qu'elle est à l'avant-dernier rang. C'est lamentable. C'est vraiment des volontés politiques. Alors, quand on entend les volontés gouvernementales, la volonté gouvernementale qui est de dire en 2012, je ne sais plus si c'est 6 ou 10% de l'agriculture en bio,
6%,
et que l'on va... On va libérer 1 million d'hectares pour l'agriculture biologique, alors que chaque année, on a 600 000 hectares en zone périphérique qui disparaissent pour du bétonnage. Y a quand même problème. On a du mal à croire ce qu'ils vont nous annoncer. On est en train de faire une action auprès de la mairie et de Marseille-Provence Métropole. Il faut impérativement, mais c'est vital, de restaurer les ceintures maraîchères autour des grandes villes. Mmh. Avec l'augmentation du prix du pétrole, nos agriculteurs, il n'y en a plus beaucoup sur la Canebière. Donc on va les chercher un peu partout dans la région. On en a dans les Bouches-du-Rhône, on en a même dans le Gard, on en a dans le Vaucluse, on en a dans le Var. Et ils ont des trajets. Bon, et là, il faut impérativement relocaliser l'agriculture. Ça, c'est un problème vital. Et ça, il faudrait que nos gouvernants...
On a quand même des maraîchers, on a...
Vous avez vu combien de maraîchers vous avez à proximité de Marseille? Il y a la zone d'Aubagne, oui, où il y a encore pas mal de maraîchage, mais tous ne sont pas en bio, on s'en fout. Mmh. Hein, donc, ils servent d'abord, évidemment, s'ils peuvent trouver des groupes à proximité de chez eux, ils le font et ils ont raison. Mais... Marseille, il y a une demande énorme, il y a quand même 800 000 habitants. Actuellement, on a à peu près 1% de la population qui se nourrit via ce système des AMAP ou des paniers. C'est peu et c'est énorme. Hein? Donc il faut continuer, on a une demande absolument énorme qu'on n'arrive pas à satisfaire. Pourquoi? Par manque d'agriculteurs. Alors que toutes les 15
par
minutes...
Par manque d'agriculteurs ou par manque d'agriculteurs qui accepteraient de changer leur mode de production? Parce que, est-ce que c'est rentable pour eux de se mettre au bio justement et de vendre via les AMAP?
Alors... Ce qu'il y a quand même d'extraordinaire dans ce système, c'est que l'agriculteur, quand le citoyen, l'adhérent s'engage à prendre un panier, il fait une adhésion pour 6 mois, une adhésion financière pour 6 mois, c'est-à-dire qu'il paye d'avance sa récolte. Donc il dépose
les chèques. Il paye les six mois
d'avance, il fait 6 chèques, un chèque...
Ça représente combien à peu près une mensualité, pardon.
Un panier complet, c'est entre 20 et 25 euros semaine. Hein. Donc, si vous multipliez par 4, en moyenne, ça fait 100 euros par mois.
Un panier pour 150 euros.
Un panier pour 4, deux adultes, deux enfants.
Pour 4, hein.
Oui. Mmh. Et vous pouvez prendre un demi-panier si vous êtes seul ou deux. Mmh. Hein. Donc, l'agriculteur connaît le montant de sa trésorerie. Et ça, pour lui, ça change sa vie. Il n'a plus besoin d'aller démarcher, d'aller se faire matraquer par la grande distribution pour vendre ou ne pas vendre sa production.
Alors, ça, c'est le parallèle qu'il y a entre le commerce équitable et les AMAP, en fait. On paye le producteur avant qu'il ait produit pour justement qu'il ne soit pas en étranglement au niveau de
voilà.
sa production.
Voilà. Donc ça, c'est absolument énorme comme concept. Mmh. C'est absolument, je dirais, c'est un peu révolutionnaire. C'est tout à fait une autre démarche. C'est vraiment une démarche solidaire. Et ça, c'est absolument magnifique. Mais il faut bien voir que l'on demande à l'agriculteur... L'agriculteur qui vient dans ce système, très souvent, il est en monoculture. Donc il faut qu'il passe à la polyculture, ce qui suppose remplir un panier... pardon, toutes les semaines, et que ce soit quand même diversifié, qu'il ait en permanence pardon, une cinquantaine de produits différents en culture à l'année.
Hein? Et ce ne serait pas possible d'avoir des agriculteurs qui en aient que 10 chacun, mettons 5 ou
voilà.
10 chacun.
Alors, et puis... ce qu'ils font maintenant, et on les encourage vraiment à faire ceci, c'est à se regrouper deux ou trois ou quatre, dans une aire géographique limitée. Non pas à se mettre en commun, pas du tout, parce que l'agriculteur est très individualiste et c'est très bien aussi. Mais par exemple, s'il y en a un qui réussit, mettons au hasard, mieux les betteraves et que l'autre ne les réussisse pas, il y en a un qui produit les betteraves pour deux ou trois.
D'accord.
Voilà. Ça, c'est très très bien. Et ça, on les encourage fortement et ils le font. En plus, ils se mettent déjà en commun à quelques-uns pour acheter, pour faire des cumas, acheter du matériel en commun. Parce que, effectivement, ça leur facilite la chose d'un point de vue financier et... voilà. Donc, on encourage vraiment à ce qu'ils se regroupent. Et ça se fait déjà dans plusieurs endroits. Mais c'est vrai que pour l'agriculteur, vous savez, s'ils ne sont pas passionnés par leur boulot, ils ne le font pas. Mmh. Parce qu'il ne faut pas croire que même avec ce système, ils ont des salaires mirobolants. Ce sont des salaires...
Non, bien sûr, mais on se dit, parce que c'est vrai qu'on a entendu beaucoup les agriculteurs se plaindre justement des grandes et moyennes surfaces qui écrasaient les prix au kilo. On se dit, bon, en réduisant les circuits, en fait, hein, en directement en lien avec le consommateur, peut-être que les prix au kilo peuvent augmenter.
Bien sûr. Donc, Mais le principe de ce partenariat solidaire, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Donc, ça permet de rémunérer de façon honorable l'agriculteur et ça permet au consommateur de payer un juste prix les aliments qu'il va manger.
Ça, il faut insister là-dessus. Il faut insister là-dessus parce que chaque fois, agriculture bio, ah non, c'est pas possible, c'est très cher. C'est vrai que si on va acheter des trucs bio comme ça dans...
si on va les acheter en grande surface.
Oui, si j'ose dire. D'abord, il faut savoir que les grandes surfaces se mettent au bio, mais c'est du bio qui vient de l'Est, hein, je vous signale. Ça vient de Pologne. Hein,
c'est du bio importé.
Bon, alors, ceci étant, si on va dans des trucs qui sont spécialisés dans le bio, c'est vrai que ça vaut très cher. Mais si vous court-circuitez comme ça la distribution, le bio ne vaut pas plus cher que le non-bio. Ça, il faut bien que les gens le sachent.
Donc, en fait, le bio est abordable, tout dépend de la façon dont on l'aborde, justement.
Tout à fait.
On arrive à la pause. On va faire une petite interruption musicale et on se retrouve après. On écoute UUS 3 Aimed for Her et on se retrouve tout de suite après.
Virtuoso in tow, impresario of sound, composed from within and closed, now it folds. Toes tap as a reaction, adapting the pattern of rhythm, digging with the soul, brother giving them. Let your mind connect to the injection in your ears, the architect's flex on the set skills of inner depth with no slack. Absorb a brother's essence who in fact been in existence before rap. The soul brother for years, official and still an original, fulfilling rhythmical joints to listen to. Non-individual or better, assisted whomsoever, clever whack this brother never. Body sway when he plays since the days are way back still. Today he'll lay tracks that's fat when wait and chill. Soul brother on this number, give him a taste, hit him and lace him with the rhythm.
Soul brother's on this scene.
Soul brother, we combine a rocket for your mind one time, a true mastermind.
Soul brother's on this scene.
The soul brother, one of a kind, no other, genuine, line to line, keeping the rhythm on time. Soul brother, no other, keeps you moving, grooving to a tune and ain't a sound more soothing. Ooh.
losing over vibing, he's supplying. Find a chart climbing, proving two men who ain't losing the game. Instead, sustain endeavor. Whenever we together, soul flows. Till tunes close sever. Recognize the steel as concealed thoughts unveil. Then reveal what you feel from within. Peel. KCB is who this. New to this is ludicrous, I'm true to this game. Retain who is the brother of soul, solely. No, in reality, many be being, though no one and only. Body sway when he plays, since the days of way back still. Today he'll lay tracks that's fat and waiting to chill. Soul brother on this number, give him a taste, hit him and lace him with the rhythm.
Soul brother's on this beat.
Soul brother, we can find a rocket for your mind one time, a true mastermind. Soul brother, one of a kind, no other, genuine, line of line, keeping the rhythm on time. The innovator, creator of audio gold, kept on your toes by what he has composed. Talent exposed, techniques coordinated with precision, catering to whatever flavor you're listening to. Body sway since the day you're way back still. Today he'll lay tracks this fat with weight and chill. Soul brother on this number, give him a taste, sit him and lace him with the rhythm.
Soul brother's on this beat.
Soul brother, we combine a rocket for your mind one time, a true mastermind. Soul brother, one of a kind, no other, genuine, on the line, keeping the rhythm on time.
Bonjour et bienvenue à la deuxième partie de l'émission Regard sur l'environnement du réseau Écoforum. Aujourd'hui, nous parlons d'alimentation avec deux invités, Alain Trière, médecin nutritionniste et auteur du livre La micronutrition, dans votre assiette. Et notre deuxième invité, décidément, je ne veux vraiment pas commencer par les femmes aujourd'hui, Monique Tiano, qui est présidente des Taniers Marseillais.
Juste une petite rectification, je ne suis pas présidente, co-présidente.
Ah,
nous
pardon.
Sommes deux co-présidentes.
Alors,
Françoise Fabre étant la seconde co-présidente.
Ok, alors on la salue d'ailleurs, donc Françoise Fabre, qui n'est pas là aujourd'hui. Donc vous représentez l'association Les Paniers Marseillais. On a parlé en première partie d'émission des impacts sur la santé d'une mauvaise alimentation, donc d'une alimentation qui serait déséquilibrée, notamment de ce qui est rajouté autour de notre alimentation. De ces fameux pesticides qui s'accumulent dans notre organisme et qui peuvent avoir des répercussions dramatiques sur notre santé. Donc beaucoup de questions ouvertes, pas encore fermées parce qu'on ne peut pas de toute façon répondre aujourd'hui à tous les tenants et les aboutissants des changements qu'il y a dans notre alimentation et dans notre mode agricole aussi, puisque ça a des répercussions directes sur notre assiette. Donc on a parlé un petit peu des AMAP aussi, et pas seulement, des paniers. On a vu que ça pouvait vraiment apporter non seulement une plus value pour l'agriculteur, mais surtout pour le destinataire final de ce produit. Donc, vous nous avez parlé du fonctionnement des AMAP et on n'a pas encore eu le temps de parler de l'aspect éducatif aussi qu'il y a au travers des AMAP, que ce soit l'éducation à la solidarité, mais aussi au gustatif et à l'alimentation. Alors, on vous écoute.
Bon, il est certain que quand les gens, en général, la première distribution, quand ils commencent à goûter les produits qu'ils ont dans leur panier, dans les jours qui suivent, on a un appel, un coup de téléphone. Oh, mais dis donc, c'est absolument extraordinaire. Je ne savais pas que les épinards, c'est surtout les épinards, je me souviens de ça, une dame qui ne mangeait que du picard et qui est donc devenue...
On va avoir un procès. Ouais.
Non, mais allez-y, balancez. Oui, j'aurais pas dû dire la marque, je m'en excuse auprès de picard, qui fait d'ailleurs des produits très bons, mais bon...
Ça n'a pas le même goût, et qui me dit,
mais des aliments, des épinards frais comme ça, mais c'est une merveille. Mmh. Mais par contre, elle ne savait pas les cuisiner. Bon, donc on se réapproprie le goût, effectivement, entre une salade qui a été ramassée le matin, que vous avez dans votre assiette le soir, et que vous pouvez conserver, selon bien certaines conditions, ouais, pendant plusieurs jours au bas de votre réfrigérateur, et une salade de grande distribution qui a reçu au moins 5 traitements, il n'y a pas photo. Tant pour la... l'aspect que pour le côté gustatif. Ça, c'est absolument remarquable.
Et le côté nutritionnel.
Et le côté nutritionnel, oui. Parce que justement, ce qu'il faudrait peut-être dire, c'est que quand vous plantez en agriculture conventionnelle, vous avez une terre qui est morte. À force de mettre des intrants chimiques, à force de mettre des pesticides, vous avez détruit totalement la microfaune et la microflore. Donc vous n'avez plus rien, vous avez carencé, vous avez lessivé cette terre, ce qui fait que les nutriments, les oligo-éléments que normalement vous trouvez dans une terre, vous ne les avez plus. Et là-dessus, vous allez planter des plantes qui vont avoir du mal à pousser. Donc vous allez les booster en amenant encore d'autres intrants.
Les vitamines,
et finalement, machin. Voilà, les vitamines machin, les vitamines trucs, les insecticides machin, les insecticides trucs.
Et finalement,
croissance. Tout à fait. Ah oui, parce que ça pousse très vite. Et finalement, vous allez récupérer dans votre assiette une plante, un végétal qui est malade, qui est mal nourri. Et comment voulez-vous, vous, après être en bonne santé, quand vous allez manger un produit pareil?
Vous êtes en train de nous dire, en fait, qu'avec l'agriculture conventionnée, on mange des végétaux à moitié morts, en fait.
Exactement.
Des espèces de végétaux morts-vivants.
Exactement.
Il va être en particulier plein de nitrates.
Oui,
les nitrates eux-mêmes ne sont pas toxiques, mais ils vont se transformer en nitrites puis en nitrosamines dans l'organisme. Et là, c'est des composés qui sont carrément cancérigènes. Mmh. Et donc, on parlait de l'appauvrissement de la terre. Il faut savoir maintenant que les cultures se font complètement hors sol. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de terre du tout, en goutte à goutte. C'est-à-dire que la plante que vous mangez est une plante, j'allais dire, de réanimation, qui est complètement perfusée.
Elle est sous intraveineuse, voilà, c'est exactement
intraveineuse.
Ça.
Mmh. Exactement. Alors qu'effectivement, quand vous avez une terre en biologique, vous avez une densité de vers de terre à l'hectare qui est absolument phénoménale, vous avez restauré toute la microfaune, toute la microflore, et vous avez effectivement un aliment, un végétal, qui est plein de tous les oligo-éléments dont vous avez besoin. Hein? Donc évidemment, tous les problèmes de santé qui s'en suivent, selon ce que vous consommez, on le comprend aisément.
D'ailleurs, c'est vrai, quand on achète ces salades en grande surface, on trouve rarement un ver de terre dedans. Hein.
Ah, ça jamais.
C'est toujours très étonnant. Il n'y a plus d'escargots ni de ver de
terre. Ah non, ça, vous ne risquez pas d'en trouver.
Dans les salades. On a parlé beaucoup des problèmes de l'alimentation. Les solutions, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Passer par les AMAP, manger bio.
Par les paniers.
Par les paniers.
Les AMAP et les paniers.
Oui, parce que voilà, tout n'est pas bio dans les AMAP. C'est ce que, en fait, on disait un petit peu. Il y a beaucoup de bio, mais il y a certains agriculteurs dans les AMAP qui ne sont pas encore 100% bio, sachant que ce n'est pas non plus peut-être dramatique de temps en temps de manger l'agriculture conventionnelle, je ne sais pas.
Non, la preuve, c'est qu'on est encore là et qu'on en a mangé beaucoup. Mais,
il faut tendre vers l'équilibre. Et...
Voilà, ce que l'on fait, nous, dans les paniers marseillais, c'est surtout d'attirer les agriculteurs en conventionnel vers ce système, vers cette pratique en agriculture bio. Et c'est la raison pour laquelle ils ont besoin d'un accompagnement extrêmement suivi. Hein. Mmh. Cette année, on a 3 nouveaux agriculteurs qui arrivent, qui étaient en conventionnel et qui se mettent à la bio. Et on a des formations pour eux et on a un agriculteur consultant qui les suit personnellement.
Alors ça, c'est formidable. C'est un peu la nouveauté aussi de votre association par rapport à une AMAP lambda, sachant que ce n'est pas du tout péjoratif.
Non, pas du tout.
C'est que vous faites de l'accompagnement, de la formation, vous encouragez. Même j'ai vu que vous donniez des formations en gestion pour les agriculteurs qui auraient du mal à s'organiser.
Avec Solidarité Paysan, oui.
Voilà. Donc c'est vraiment, voilà, c'est une approche globale, en fait, de ce changement dans le domaine agricole. C'est pas simplement, on vous culpabilise, il faut que vous changiez et on
n'a
pas d'accompagnement derrière. Donc alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Manger bio, arrêter de manger du pain bourré de sucre et de sel, on a parlé de ça, attention au sel. Bon, ça, ce sont des choses qu'on a pas mal entendues. Essayer de manger varié, oui, mais surtout avec des produits équilibrés qui ne sont pas saturés, comme on disait, en huile hydrogénée, en éléments rajoutés comme ça, qui seraient toxiques pour l'organisme. Alors, qu'est-ce que vous nous conseillez, monsieur le médecin nutritionniste Alain Trier?
Alors, donc, écoutez, des choses d'une grande simplicité, c'est de voir un petit peu comment mangeaient nos grands-parents, c'est-à-dire de revenir à ce qu'on ne mange plus du tout, c'est-à-dire les céréales, les légumineuses et les légumes secs. Ça fait plus partie du tout de l'assiette actuellement. Or, ça devrait être une composante absolument fondamentale de notre assiette. Mmh. On voit quelquefois de la viande tous les jours dans les assiettes et même matin et soir. Ça, c'est une aberration absolue de manger de la viande rouge.
Deux fois par semaine, ça suffirait?
Largement. Ouais. Les autres moments du poisson. Oui, Monique. Les autres moments du poisson. Et en sachant qu'il faut quand même des petits poissons gras, des sardines, des maquereaux, etc. Et là, il est très important de dire aux jeunes femmes qui sont donc susceptibles d'être enceintes, aux femmes allaitantes et aux enfants, qu'il ne faut pas manger de thon, les grands prédateurs pélagiques, ni de thon, ni d'espadon, parce qu'ils sont trop saturés.
Même s'il est cuit en...
Ah mais le fait de le cuire n'enlève pas le mercure.
Pour les, ça n'a rien à voir,
ils sont,
en fait. Hein.
Ils sont saturés en mercure.
D'accord.
Et le fait de le cuire.
Le mercure ne part pas à la cuisson.
Quand j'étais adolescent, je pêchais dans la Saône au niveau de Mâcon, si j'ose dire. Et je mangeais mon poisson très bien. Je pourrais actuellement re-aller pêcher au même endroit, mais manger le poisson une fois par trimestre. Mais mon petit-fils ne pourrait plus jamais pêcher. Manger le poisson là. C'est-à-dire que la toxicité n'est pas la même aussi selon l'âge.
Donc des fois, en pensant bien faire, en mangeant du poisson plusieurs fois par semaine, on peut s'intoxiquer aussi.
Il ne faut pas manger de grands poissons, de thon. De toute façon, le pauvre thon rouge de Méditerranée, il est décimé, il disparaît. Donc, on va préserver l'espèce. Et il ne faut pas manger des espadons quand on est susceptible, de faire un bébé, d'allaiter, ou quand on est simplement petit. Ça, c'est un truc très important.
Alors, on a vu qu'il y avait plein d'aliments qui étaient donc dangereux pour la santé. On va prendre Janie Bode, qui est au téléphone, donc qui est l'infirmière, en fait, à l'hôpital de Pertuis, qui coordonne l'événement, les journées de l'alimentation dont on parlait en début d'émission, et qui se tient donc actuellement à Pertuis et qui va durer tout le week-end. Alors, est-ce que Janie Bode nous entend ?
Oui, bien
bonjour,
sûr.
Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue donc à l'émission Regard sur l'environnement. On est heureux de pouvoir vous avoir avec nous. Donc, écoutez, on va vous laisser donc nous présenter l'événement du week-end qui se tient actuellement.
Voilà, donc l'hôpital de Pertuis reçoit donc pendant 3 jours des conférences, débats. Donc, nous avons tout un programme. C'est entrée libre. Donc je vais vous dire un petit peu, donc ça a déjà commencé. Nous sommes actuellement avec la matinée mère-enfant où justement nous proposons le lait, parler des alternatives du lait justement par rapport au lait de vache que l'on conseille justement pour tous les problèmes d'allergie, etc. Donc c'est un petit peu avant-gardiste au niveau d'un hôpital et d'une maternité, puisque nous avons une maternité à l'hôpital. Et donc les alternatives du lait. Marina Maringo donc nous parle du goût et de l'odorat chez le bébé. Ensuite, nous avons cet après-midi les plantes alimentaires de ramassage, l'histoire des plantes fondatrices du jardin européen, ainsi que nous allons parler des auxiliaires du jardin potager que l'on peut rencontrer dans tous les jardins et dans tous les mêmes pas les jardins potagers. Ensuite, demain, donc nous avons Monsieur Courbon qui parlera de manger autrement, pourquoi, comment. Eliane Joumont, la santé de l'homme et santé de la terre par rapport à l'environnement. Ensuite, nous avons aussi toute l'équipe de l'hôpital d'Embrun qui vient parler de la mise en place des repas bio en restauration collective. Donc,
parce qu'au départ, c'était un peu l'idée, en fait, vous vouliez intégrer le bio dans votre hôpital.
Tout à fait, et on y arrive.
Félicitations, justement. Vraiment félicitations.
Alors, vous avez donc notre médecin nutritionniste qui vous félicite vraiment pour cette initiative.
Oui.
Donc, alors, demain...
Doucement, donc ça veut dire que d'abord nous proposons lors de ces 3 jours des repas bio pour tout le public qui est intéressé. Et au niveau de l'hôpital, la diététicienne Madame Josette Briand et Monsieur et son mari, le chef cuisinier, donc ont cuisiné donc gratin de courgettes. Nous avons des fraises, nous avons tout un programme, un petit programme. On a du pain aussi bio à tous les repas. Donc c'est l'intégration d'un aliment, on n'a pas fait le repas complet parce que je trouvais que c'était beaucoup mieux d'intégrer une denrée parce que justement après ce sont des producteurs locaux, ce sont des légumes de saison et ce sont des légumes qui sont cuisinés avec beaucoup de plaisir par des gens donc qui ont envie que après cette action perdure au courant de tout au long de l'année.
Oui, qu'il y a un effet d'entraînement après quoi.
Tout à fait. Il y a du fromage aussi qui est proposé, etc. Donc c'est tous des producteurs donc que nous avons choisis et qui viennent très volontiers servir l'hôpital de Pertuis, ainsi que donc comme je vous le disais le pain tous les repas le matin, le midi et le soir, donc du pain bio qui vient de Compagnis à Fort-Calquier. Donc je vous parle aussi du programme de samedi, c'est-à-dire que samedi nous allons parler du raffinage des céréales donc avec Monsieur Christian Rémézy, en parlant justement du problème du trop grand raffinage des céréales au niveau du pain, l'intolérance alimentaire, donc avec les sans gluten et sans lait, pourquoi, comment, avec Valérie Cupillard, donc qui sera là, créative culinaire, et Catherine Guasco, naturopathe. Et alors, samedi après-midi, alors ça me tente beaucoup parce que je trouve ça très bien de rentrer ça à l'hôpital, c'est les contaminants chimiques de l'alimentation, avec les risques liés au mercure dans le poisson et les produits de santé. Et on finira par justement une information sur l'aspartame, l'utilisation des édulcorants dans l'alimentation.
Et vous nous avez pas parlé de votre soirée de vendredi ?
Alors attendez,
avec
oui.
Le professeur Pelt.
Alors voilà, ça c'est donc le programme, donc je vous parlais du programme des journées.
D'accord.
Et donc vendredi soir, nous avons Jean-Marie Pelt à la salle des fêtes de Pertuis qui vient comme on sait, président de l'Institut européen de l'écologie de Metz, professeur émérite de l'Université de Metz et qui vient nous parler de la terre en héritage et l'entrée est à 7 euros. Voilà, et on se fait un énorme plaisir, que du bonheur, de rencontrer Jean-Marie Pelt dans une petite ville comme Pertuis, parce qu'on fait conférence de presse. La directrice de l'hôpital, Madame Claire Ayoux, donc, sera là pour le recevoir. Mmh. Nous avons la mairie de Pertuis, donc c'est un événement aussi important pour la ville et aussi pour la région. Voilà.
Très bien. Alors vous allez, oui, Monsieur Trier a envie de réagir.
Non, c'est ça, publicité bien organisée, commençant par soi-même. J'ai le plaisir de dire que c'est le professeur Jean-Marie Pelt qui a présenté mon livre, qui a fait la dédicace de mon livre.
D'accord, alors on encourage vraiment les gens à aller le voir. Donc,
Alors, vous parliez
de l'allaitement maternel. Il est absolument fondamental. Il faut savoir une chose, c'est que les enfants qui ont eu un allaitement maternel de longue durée, de plusieurs mois, ont un goût qui est beaucoup plus ouvert que les enfants qui ont eu un allaitement artificiel. Le gosse qui a un allaitement artificiel, il a toujours la même chose dans la bouche, le lait ne varie absolument pas, tandis que le goût du lait varie non seulement de tétée à tétée, mais même au cours de la tétée, il varie selon ce que la mère mange, et les enfants sont beaucoup plus ouverts, et non seulement ouverts à l'alimentation, mais beaucoup plus ouverts au monde quand ils sont allaités par leur mère.
Monique Dano, vous voulez aussi réagir sur ce qui a été dit tout à l'heure ?
Oui, je voudrais reparler de la restauration collective, justement. Ça, c'est une des grosses actions aussi que l'on met en place. La restauration collective dans les scolaires. On fait partie, les paniers marseillais font partie d'un collectif, le collectif de la Roseraie, qui est en train de monter une grosse action pour faire introduire la bio dans les cantines scolaires, voilà. Et notamment en primaire.
Donc alors on voit que ça arrive à l'hôpital, ça arrive dans les écoles, il faut en fait arriver dans des
également
univers publics comme ça.
Dans la restauration collective, dans l'administration. On est en train de monter avec France 3. France 3 est en train de monter son restaurant en restaurant bio.
D'accord.
Et avec des paysans, des agriculteurs de proximité, deux agriculteurs de proximité qui fournissent les légumes.
Ok, alors.
En plus, pardon, excusez-moi, il y a donc, je ne sais pas si vous avez remarqué l'engouement qu'il y a pour toutes les AMAP. Donc maintenant, autour de vous, tous les gens commandent leur petit panier à la semaine et tous les gens, justement, redécouvrent.
C'est 1%, hein. 1% de la population marseillaise. Mais c'est déjà un bon début, ce qu'on disait dans le cadre de l'émission. Juste, on va quand même rappeler où se trouve l'événement, parce que je ne sais pas si c'est bien clair pour tout le monde. Donc, c'est à l'hôpital de Pertuis. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut trouver de l'information sur tout le détail des conférences que vous venez de nous donner, en fait?
Eh ben, alors écoutez, on a fait beaucoup de d'informations. Là, on a des programmes sur place, hein, donc ça se passe dans le centre hospitalier de Pertuis.
Sur internet, c'est pas accessible pour l'instant le programme.
Dès qu'il y a non, on n'a pas encore été jusque là, on l'a pas fait. Non, alors non, mais à la mairie de Pertuis. Oui, alors si, il y a le syndicat d'initiative. Mm-hmm. De Pertuis, il y a le syndicat d'initiative de la Tour d'Aix et il y a le syndicat d'initiative de la ville de Pertuis et ainsi que le syndicat d'initiative de la ville d'Aix-en-Provence.
D'accord, oui, donc ça doit être possible d'avoir donc des informations si on les contacte, sachant que ça dure aujourd'hui, vendredi et samedi, toute la journée donc, hein, toute la journée, plus des conférences en soirée et des repas bio, le midi buffet bio proposé.
Voilà, et ensuite nous avons pour clôturer une petite soirée de clôture dans une ambiance festive musicale avec le docteur Gérard Grelet, donc qui est le chef de service de la maternité de Pertuis et qui se produit avec son orchestre, à Patatouille, etc.
Mais tout le monde s'y met. Donc là, on est vraiment dans une démarche solidaire formidable. Écoutez, franchement, ça fait envie. Merci pour cette présentation et ce programme complet. On encourage vraiment, en tout cas, les Marseillais, les auditeurs marseillais locaux qui nous écoutent à se rendre à Pertuis ce week-end. Alors attendez, on a une réaction encore de Monique Diano sur ce qui vient d'être dit.
Pas vraiment sur ce qui vient d'être dit, je trouve ça très très bien, mais je voudrais terminer en disant que...
On va peut-être saluer alors Jenny Bott qui est en ligne.
Oui. Oui.
Bah, écoutez, Jenny Bott, on vous remercie pour enfin de nous avoir contactés, puis on vous souhaite un merveilleux week-end biologique.
En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre accueil. Merci.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Voilà. Oui, donc, alors, excusez-moi. Alors,
moi, ce que je voudrais dire, en fin de cette émission, puisqu'on arrive à son terme, c'est qu'il ne faut absolument pas opposer toutes les associations qui œuvrent dans le même sens. Que ça s'appelle AMAP, que ça s'appelle Panier Marseillais, que ça s'appelle Panier Truc, Panier Machin. On a tous en commun ce socle qui est le partenariat solidaire entre un agriculteur en bio ou en reconversion vers la bio et un groupe de citoyens, je dirais, qui décide d'être solidaire avec un agriculteur et de l'aider à aller dans sa démarche. Et je crois qu'il
n'y a pas... Il faut
motiver
ça encore.
Voilà, plus il y aura d'associations différentes qui vont se créer autour de ce socle, chacune avec sa particularité, mieux ce sera pour l'avenir de nos agriculteurs.
Alors Alain Trière.
Dernier conseil aussi pour l'alimentation, c'est d'abord sur la cuisine. La meilleure cuisson, c'est la vapeur sans pression, le style couscoussier, style cuve à vapeur sans pression, c'est-à-dire à moins de 110 degrés.
La pression, c'est quoi? C'est quand ça commence
c'est
à bouillir.
C'est la cocotte minute.
D'accord.
Voilà, ça surtout pas. Bon, ça c'est la meilleure cuisson. Le second truc, c'est sur les huiles, les corps gras. Alors on peut manger un peu de beurre, il y a pas de raison, mais pas plus d'une petite plaquette hôtelière, 20 grammes, disons, par jour, du moins si on n'a pas de problème de cholestérol. Et par contre, alors, les huiles d'assaisonnement, il faut faire un mélange à parties égales, soit olive colza, soit olive noix. Soit une huile qui va faire sourire tout le monde, l'huile de chanvre. Alors, ça ne fera pas voyager. Il y en a qui seront déçus. Mais c'est une huile qui est extrêmement bien équilibrée en oméga 3, oméga 6. Et il faut savoir que colza et noix, il faut les maintenir au frigo. Ça, c'est très important, sinon elles s'oxydent. Donc, 50% olive colza ou olive noix et à mettre sur les légumes, sur le poisson, etc. Après, sur les céréales. Après cuisson.
Oui, donc il n'y a pas ça, que l'huile d'olive qui est bonne pour la santé.
Non, il n'y a pas
plus
d'olive, elle n'est pas assez riche en oméga 3.
Elle n'est pas assez riche en oméga 3. Donc alors, on a vu, varier son alimentation, attention, est-ce que, bon, on a parlé des pesticides, mais qu'est-ce qu'on peut faire contre les pesticides? Et est-ce que se rincer finalement ses légumes
Écoutez,
et les laisser tremper,
mieux,
ça peut suffire?
Il vaut mieux, non, il vaut mieux, oui, il faut laver les fruits, etc. Il vaut mieux de toute façon manger quand même beaucoup de légumes et de fruits que de ne pas manger, c'est sûr. Il vaut mieux manger des légumes, on parlait tout à l'heure d'une célèbre marque de surgelés, il vaut mieux manger des surgelés que des conserves.
Pourquoi?
Oui, parce qu'il y a des conservateurs, il y a du sel, il y a beaucoup de sel, il y a des conservateurs, il y a des agents de texture, il y a tout ce que vous voulez dans une conserve. Tandis que le surgelé, ma foi, il est surgelé, l'aliment est normal quand même. C'est pas... Et puis, de toute façon...
Le gène ne détruit pas l'apport nutritif.
Et si vous, quand vous allez dans un supermarché, vous allez acheter des carottes, des machins, des trucs, etc. Et bon, vous avez ce que vous voulez. Si vous avez un panier, ben non, il n'y a pas de carottes. Ah, c'est pas de chance. Et ben, ça vous redonne... D'abord, vous pouvez quand même acheter vos carottes à la grande surface. Vous n'allez pas en mourir. Et puis, ça vous redonne quand même le sens de la vie. La vie, c'est ça. On n'a pas tout à sa disposition tout le temps.
On ne devrait pas.
C'est très important. C'est très important.
Oui, de revenir à une saisonalité, donc à une localisation de l'agriculture aussi.
Oui, oui, oui.
Bien sûr. On le dit, c'est vrai, mais bon, on insiste, on enfonce le clou.
Se réapproprier la saisonnalité.
Et pas manger des cerises du Chili à Noël. Vous vous rendez compte le transport que ça fait, le CO2, etc.
Mmh. Ok. On arrive à la fin de cette émission. Je vous remercie vraiment tous les deux pour toutes ces informations. On est un peu frustrés. On aurait voulu aller
plus loin.
Malheureusement, on ne peut
pas. C'est moi qui vous remercie.
Alors, un lien, www.lespaniersmarseillais.org, les paniers marseillais donc au pluriel, toutattaché.org et un contact, le même, contact@lespaniersmarseillais.org. Vous trouvez ça sur Internet. Il reste des paniers à disposition pour ceux qui en voudraient. Les listes d'attente ne sont pas toutes saturées. Mmh. Et le 7 juin, manifestation Écoforum. Soyez là, on a besoin de vous. Merci pour votre écoute. Cette émission a été présentée par Caroline Legal. À la semaine prochaine. Malico.